Bonjour Karine Nishimura Poupée.
Bonjour.
À force de ne regarder et de féliciter que l'apparente perfection du Japon, écrivez-vous, on en oublie trop de chercher ce qu'elle suppose de peine et de tourments. Et ces tourments, ô combien ils sont nombreux quand on vous lit, à commencer par l'état même de la démocratie, dépouillée et anesthésiée, c'est-à-dire.
C'est-à-dire que la démocratie japonaise, sur le papier, elle existe, elle est quasi parfaite, c'est une démocratie pleine et entière, mais dans la réalité, elle n'existe pas vraiment. Pourquoi ? Parce que ceux qui sont censés la faire vivre, la faire exister au quotidien, cette démocratie, eh bien, ne le font pas. Les citoyens, les médias, les contre-pouvoirs, ils sont quasiment absents, ils sont inefficaces ou bien ils sont tellement éparpillés que leur action, elle ne sert à rien. Et puis les citoyens ont l'impression que la démocratie, ben, c'est aller voter simplement. Mais ce n'est pas une démocratie qui doit vivre au quotidien, selon eux. Alors manifester, ce n'est pas dans les mœurs. Se rebeller, ce n'est pas dans les mœurs. Critiquer, ce n'est pas dans les mœurs. On pourrait passer pour un anti-citoyen japonais. Et donc, du coup, au bout du compte, eh bien, il y a un parti très très fort qui est tellement énorme, tellement omnipotent qu'il domine la vie politique depuis quasiment 70 ans.
Un parti politique qui use et abuse de la discipline de ses citoyens. Le Japon, et je vous cite encore, a réussi en politique ce tour de force d'avoir une population aussi obéissante que dans un état totalitaire, mais sans employer les outils de la dictature. C'est fort quand même.
C'est très fort, mais c'est la réalité, si vous voulez. Vous avez une population qui est silencieuse, obéissante, qui est extrêmement disciplinée. Donc c'est une population rêvée pour un parti qui n'a même pas besoin d'employer des outils coercitifs pour qu'elle soit complètement assagie et qu'elle ne dénonce même plus ce qui devrait être dénoncé. Là, on vit effectivement des scandales politiques, mais pas seulement. On vient de vivre un énorme tremblement de terre dans la péninsule de Noto. On se retrouve quasiment avec des gens qui vivent comme au Moyen-Âge, sans eau, sans électricité, et ils ne se plaignent pas. Ils se plaignent pas, ils n'ont pas l'impression d'avoir été un peu roulés dans la farine depuis des années par des politiques qui vont aller placer de l'argent dans d'autres secteurs, mais qui, dans le domaine de la prévention des séismes, mettent de l'argent, bien sûr, mais pas forcément de la meilleure façon, pas forcément de la façon la plus efficace, et puis qui oublient aussi les situations de certaines régions qui sont vieillissantes, qui sont isolées. Et donc, les gens ne se rendent pas compte que finalement on abuse de leur docilité, de leur discipline.
La population ne manifeste pas. Vous expliquez que les manifestations sont l'apanage des marginaux. Les journalistes ne posent jamais les questions qui dérangent. Il n'y a pas de contre-pouvoir, c'est ça?
Les contre-pouvoirs, oui, s'effacent d'eux-mêmes, ne jouent pas pleinement leur rôle. Alors, il y a des médias sont effectivement un peu inféodés au pouvoir, essaient de ne pas trop fâcher le pouvoir, essaie d'obtenir par la bande des informations plutôt qu'en conférence de presse. Donc en conférence de presse, essaie de ne pas fâcher les membres du gouvernement. Seuls quelques trublions, quelques indépendants comme moi, comme la journaliste du Tokyo Shimbun, Mochizuki, on essaye de bousculer un peu le système, mais on ne changera rien. On ne changera rien, c'est comme ça.
Vous l'évoquiez à demi-mot, le scandale que vit aujourd'hui ce parti qui domine la vie politique, le Parti libéral-démocrate, qui est soupçonné de détournement de fonds de plusieurs millions, un scandale dont il a peine à se défaire. Est-ce que ce genre d'actualité peut avoir une incidence sur le parti, l'organisation politique et sur ses contre-pouvoirs? Est-ce que c'est de nature, ce genre de choses, à les réveiller ou bien peine perdue?
À la marge, à mon avis. Pourquoi? Parce que, bon, des scandales politiques, on en a vécu déjà plusieurs. Les Japonais ont tendance à très vite oublier la corruption, les scandales politiques. Il y a une loi sur le financement politique qui a été modifiée plusieurs fois, soi-disant pour la renforcer. Puis en fait, on se rend compte que c'est une loi passoire qui existe, qui permet beaucoup de choses. Une loi passoire qui a même maintenant un gros trou au milieu, donc de toute façon qui ne sert plus à rien du tout. Et même avec cette loi qui autorise déjà tellement de choses, eh bien, ça ne leur suffit pas encore. Il faut encore qu'ils trouvent le moyen de manipuler de l'argent différemment. Et puis, il y a le clientélisme qui ne changera pas. Il y a le fait qu'on se refile les circonscriptions de père en fils. Ce népotisme qui est vraiment une plaie dans le monde politique japonais. Je me disais que si un Premier ministre japonais de 34 ans arrivait à être nommé, ben en fait, on l'aurait pour 50 ans et il serait là avec ses fils et ses petits-fils. Donc, voilà, on en est là et ce n'est pas une démocratie mature. Et c'est un pays qui est en fait pris entre deux choses contradictoires. À la fois, veut être un grand du G7, veut être un puissant sur la scène internationale, et puis d'un autre côté, signe des documents en accord avec le G7 qu'il est finalement incapable de mettre en application dans son pays sur le plan intérieur.
Seul pays asiatique du G7, vous le mentionnez d'ailleurs, et pourtant le cadre global ne lui convient pas. Le Japon n'est pas à l'aise, il tâtonne. Cela signifie donc que c'est un pays qui est condamné à vivre à la marge, isolé sur son île ou pas?
C'est ce que disait Miyazaki par exemple, qui est un très gros connaisseur de son pays, disait que les Japonais sont faits pour cultiver du riz sur une île avec le paysage marin autour d'eux, voilà. Et c'est pas complètement faux, je veux dire, c'est vrai qu'il entre dans la mondialisation à marche forcée, il a envie d'y être, en tout cas ses hommes politiques ont envie d'être dans la mondialisation, mais finalement ça ne lui convient pas au Japon.
Outre la politique, vous décrivez, Karine Nishimura-Poupée, une société japonaise vieillissante où les unions et les naissances sont en recul, un pays aussi misogyne, marqué par une déshumanisation accentuée par les craintes de commettre un impair, la peur de se distinguer. J'ai le sentiment, en vous lisant, que c'est un pays qui est en total déclin aussi, d'un point de vue sociétal. Je me trompe ?
C'est un peu ce qui me fait peur, en fait. C'est un peu ce qui m'attriste, parce qu'à la fois, on a un pays qui présente tout un aspect de perfection qui est réel. Quand on va au Japon pour la première fois, on est béat d'admiration devant la qualité des services, devant l'entretien général des lieux, devant les prestations, tout. Même moi, je suis émue quand je vais au service des impôts, tellement ils sont gentils avec moi. Mais c'est vraiment ça. Et puis, d'un autre côté, on se rend compte qu'il y a des tissus de relations sociales qui se défont complètement. Alors, dans les villes, parce que les gens ne se connaissent pas, dans les grands Tokyo, les gens ne se connaissent pas, ne se parlent pas spontanément. Et puis dans les campagnes où les personnes sont de plus en plus isolées parce que les jeunes vont partir et que les vieux vont rester habités dans leur coin.
Une solitude qui est intégrée, c'est intéressant. Vous le dites, même d'un point de vue architectural, on conçoit des choses, des bâtiments. On conçoit aussi même la consommation pour des personnes seules. Il y a une déshumanisation qui est en marche et qui est intégrée.
C'est ça, il y a une espèce de mécanisme en fait où on se rend compte qu'il y a de plus en plus de gens seuls. Donc, comme on pense les gens comme des consommateurs, eh bien, on fait en sorte que ces consommateurs soient de plus en plus à l'aise. Donc, en fait, effectivement, dans les restaurants, même avant le Covid, on commençait à mettre des cloisons pour séparer les gens. Donc, jamais ils vont se parler spontanément. Avec le Covid, ça a encore accentué cela. On construit clairement des bâtiments qui sont faits pour des célibataires où jamais un couple réussira à vivre correctement. Donc, en fait, on entretient ce marché des hoshitori-sama. Donc des personnes seules, et on favorise aussi parfois des promotions pour les gens qui viennent seuls dans des services, des voyages et autres. Et ce qui fait que effectivement, on ne cherche pas à recréer du lien social, ou quand on cherche à le recréer, on va en faire appel aux technologies, en fait. Donc, on se dit que le téléphone portable, c'est bien, c'est un outil de communication, ça doit permettre aux gens de communiquer, puis en fait, on se rend compte que c'est le contraire. Finalement, ça isole les gens, et moi, j'ai écrit, je crois, il y a 15 ans, qu'un des plus grands dangers qui guettait le Japon, c'était un nouvel excès, un excès technologique, après un excès militariste dans les années 30 et un excès financier au moment de la dans les années 80, eh bien, le troisième excès qui guette le Japon, c'est un excès technique, un espèce de technosolutionnisme où on croit que les technologies vont résoudre tous les maux, que ce soit les problèmes énergétiques, que ce soit les problèmes écologiques, que ce soit les problèmes face au climat ou les problèmes sociaux. Et moi, ça me fait très peur, en fait. À la base, j'étais technicienne, j'adore les technologies, et quand je vois la foi aveugle qu'on a dans ces technologies, ça commence à me faire très peur pour le plan sociétal. Oui.
Vous citez l'écologie, c'est intéressant. Au détour d'un paragraphe, vous dites « La vie quotidienne est une insulte à la planète. Aucun parti ne revendique l'étiquette écolo. La consommation, principal pilier de la croissance, reste la grande préoccupation. » Là aussi, c'est un pays qui vit à rebours de son temps.
Oui, 50 ans en arrière, en fait. C'est-à-dire que les hommes politiques essaient toujours de recréer la période de haute croissance des années 60 avec les mêmes événements qui scandent le temps. Les Jeux Olympiques de Tokyo, l'exposition universelle d'Osaka, donc c'était 64, 70, et puis les Jeux Olympiques de Sapporo. Et en fait, là, ils ont essayé de recréer le même cycle. Donc les Jeux Olympiques de Tokyo en 2020, qui ont eu lieu en 2021 finalement à cause du Covid. Ensuite, l'exposition universelle d'Osaka 2025, Et puis, il voulait aussi les Jeux Olympiques de Sapporo et il voulait recréer. Si vous écoutez le discours des hommes politiques, ils vous disent très clairement, mais en fait, nous, quand on était enfants, on a rêvé avec tous ces grands événements qui ont généré tout un marché et autres. On veut refaire la même chose. Mais les temps ont changé, le monde a changé. On n'a pas l'impression qu'ils ont conscience de ça. Et là aussi, ça fait peur parce que ça désespère toute une jeunesse, en fait. Ça désespère déjà plusieurs générations qui se disent, non, nous, on ne veut pas de ce monde-là, en fait. Et les jeunes aussi sont perdus. On ne peut pas leur jeter la pierre d'être sans arrêt les yeux rivés sur leur téléphone. Ce n'est pas de leur faute. Ils ont grandi comme ça. On ne peut pas leur jeter la pierre de vouloir être tout seul, de se préférer seul plutôt qu'accompagné. C'est le monde dans lequel ils ont malheureusement grandi avec une absence totale de perspective, de vision d'un monde différent. Et en plus, c'est des Japonais qui ne vont plus à l'étranger, qui ont l'impression qu'on connaît le monde en cliquant trois fois.
Étranger égale danger, dites-vous.
Et ben oui, pour beaucoup de jeunes, c'est ça. Alors, ils n'ont pas complètement tort. C'est vrai qu'il y a plus de dangers à l'étranger qu'à l'intérieur du Japon. Ça, c'est une certitude. Mais n'empêche que penser qu'on va découvrir le monde en trois clics, qu'on n'a plus besoin d'apprendre une langue étrangère parce qu'on aura des traducteurs et autres, ben non, non, c'est pas ça, quoi. Et des Japonais qui vont plus à l'extérieur, c'est des Japonais qui n'arrivent plus à se comparer non plus au reste du monde et qui ne se rendent pas compte, effectivement, d'une forme de déclin dans lequel est entré le pays.
Et pourtant, ce pays, il en a des atouts. Vous les citez d'ailleurs à chaque début de paragraphe. Vous démontez ensuite et vous nous montrez la face cachée. Comment transformer l'essai, finalement, pour terminer sur une note un peu positive ?
Oui, ben en fait, il y a une façon de ne pas voir tout ce qui se passe. Moi, je suis journaliste, donc je suis obligée de voir toute la face cachée. Je suis obligée de la présenter, je ne peux pas me voiler la face. Mais on peut très bien vivre au Japon sans rien voir. En passant outre, en se disant bon, qu'on a une vie quotidienne qui est très bien comme ça, que on a ce qu'il faut, on a un travail, on a la stabilité et autres. Et malheureusement, c'est, je crois, ce que font la plupart des Japonais. Donc, effectivement, ils ne se rendent pas forcément compte de ce que je dénonce là. Ils n'ont pas conscience, parfois, du chagrin, de la douleur qui est la leur. Leur vie pourrait être moins douloureuse, terrible qu'elle ne l'est, s'ils prenaient conscience qu'eux-mêmes peuvent agir pour changer les choses. Et c'est un peu ce qui fait défaut.
Merci, Karine Nishimura-Poupé.
Merci.